Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle série des clés pour vivre que je vous invite à suivre. C'est une figure spirituelle étonnante et pourtant encore trop peu connue, mais connue, le Père Marie-Antoine de Lavaur, missionnaire, prédicateur, capucin. Capucin infatigable, il a marqué tout le sud de la France au XIXe siècle. À l'occasion du bicentenaire de sa naissance, j'ai la joie d'accueillir dans ce studio Madame Jacqueline Baillet. Elle est fondatrice de l'association du Père Marie-Antoine de Lavaur et autrice du livre « Le Saint de Toulouse » paru en 2006. Avec elle, nous allons un peu parcourir quelques étapes, cinq grandes étapes de sa vie, du personnage aussi qu'il était, cinq épisodes pour comprendre comment un homme aussi humble, brûlé autant, un passionné, un missionnaire qui a pu toucher tant et tant de cœurs et comment son message peut encore éclairer le nôtre. Bonjour Madame Jacqueline Baillet.
Bonjour.
Alors est-ce qu'on peut en introduction vous dire et vous présenter comme un peu la biographe du vénérable Père Marie-Antoine de Lavaur ?
Oui, des biographes, il en a eu énormément, il y a eu 6 ou 7 livres au moins après, avant sa mort. Et puis pour l'époque contemporaine, disons que c'est moi qui ai pris le relais.
Alors, dans ces quelques minutes, et avant de parler de cet appel qu'il a eu, parlons aussi de ce que le Père Antoine enseignait sur la vocation. Que nous dit-il sur la vocation ? Et qui dit vocation dit appel, et qui dit appel dit discernement. Oui. On vous écoute et merci.
Oui, alors, chacun a sa vocation. Chacun est appelé par Dieu. Mais on va aujourd'hui parler plus particulièrement de la vocation religieuse et sacerdotale. Le Père Marie-Antoine a été l'apôtre d'abord qui a fait naître de nombreuses vocations de prêtres, de religieux, de religieuses. Vraiment, il y en avait de tous les ordres et on en a de nombreux témoignages. Capucins, clarisses, mais bénédictins, prêtres diocésains. Il a enseigné comment le catéchisme discerner une vocation, en particulier au moment de la première communion, les enfants les plus pieux, les plus intelligents, ceux dont le caractère s'annonce comme franc, ouvert, docile, un peu docile, à Dieu en tout cas, et à tous, parler souvent des joies du sacerdoce. C'est ce qu'on... Ne pas donner des images négatives, bien entendu, des prêtres quand on parle devant des enfants. Voilà. Auprès des religieuses, il exerçait sur les plus fragiles une action discrète qui les maintenait dans l'amour du Christ, les fortifiait dans leur vocation. La foi ne se raisonne pas. La foi, c'est comme l'amour. Ça se vit, leur disait-il. Déjà auprès d'un frère en noviciat, quand il était novice lui-même, qui était prêtre aguerri, mais tout d'un coup, au noviciat des Capucins, ça se passait à Marseille, ballotté, déboussolé, en butte à toutes sortes de tentations, à peu près découragé, il l'a pris par la main, il a parcouru avec lui son chemin de croix, il l'a soutenu, l'a aidé à prier quand ça devenait difficile. L'a couvert du manteau de la Vierge, donnant de la chaleur à son cœur qui était comme glacé. Et le curé fera finalement sa profession religieuse sous le nom du Père Cyprien Ducel et deviendra un des futurs gardiens du couvent de Toulouse et où se retrouveront. Mais j'aimerais m'arrêter sur la propre vocation peut-être franciscaine du Père Marie-Antoine. On sait que le jeune Léon Clerc appartenait à une famille très chrétienne de Lavaur. Sa vocation d'enfant joyeux, volontaire, mais qui savait ce qu'il voulait quand même, était une évidence. Et il est rentré au petit séminaire de l'Esquille à Toulouse. Il avait 11 ans. Parce qu'il y avait pas de... il y a eu un... L'année suivante, il y a eu un séminaire d'ailleurs à Lavaur. Mais enfin, il n'y était pas là. Alors, travailleur, entreprenant, aimé, apprécié de son entourage, il est ordonné prêtre. En 1850, on passe les étapes, et nommé aussitôt vicaire à Saint-Gaudens. Donc il a 25 ans. Sa piété, son dévouement, son amour des plus pauvres marquent un ministère qui fait époque. Mais nous arrivons au vif du sujet, car dès la deuxième année de son vicariat, en mai, il entend l'appel de Saint François faisant le fameux chemin de croix au bord du sentier qui le menait au sanctuaire de Notre-Dame du Bout du Puy, à la 9e station. Il entend, au fond de son cœur, « Tu seras capucin ». Il lui faudra 3 ans de discernement pour s'envoler. En mai 1855, de Saint-Gaudens à Marseille, où l'attendent les capucins et leurs noviciats. Un mois plus tard, le voilà dépouillé de tout, même de son nom. C'est le 13 juin 1855, jour de la fête de Saint-Antoine de Padoue. Aussi, on lui donne le nom de Marie-Antoine. Et il dit « Dieu, en me donnant ces deux noms si beaux, veut que je me souvienne toute ma vie que je dois à la Vierge Marie et à Saint-Antoine de Padoue la grâce de ma vocation séraphique. » Il se confie aussi dans ses prières à son grand-oncle. Il avait un grand-oncle qui avait été capucin, Jean-Antoine de Lavore, qui a vécu la Grande Révolution. Et puis il pensait que, il disait, il doit être sûrement bien heureux de me voir là. Mais sa famille, ses amis voulaient qu'il reste le prêtre diocésain, appelé un grand avenir, parce qu'à Saint-Gaudens, voilà, on l'avait mis vicaire, mais tout le monde espérait un grand avenir pour lui. Alors, il a écrit « Dieu a été le plus fort, il m'a aimé plus que je ne m'aime moi-même. » Parce qu'il se laissait influencer un peu. Il a remporté seul la victoire. Et voilà, c'est moi qui maintenant en éprouve toutes les joies. Je suis au ciel, sur la terre, et il me semble que c'est un rêve. Alors, et ça a été non sans difficulté. On a la lettre qui décrivait un prêtre ami de ses parents en réponse à la lettre que celui-ci lui avait adressée à la demande de ses parents. Parce qu'une lettre longue où tout y passait. Mais vous faites une bêtise en quelque sorte. Il vous manque la souplesse, l'abnégation qui font le bon religieux. Et puis je suis allé chez vous. Rien ne ressemble plus à un tombeau que la maison de votre famille, complètement désolée. La réponse de Léon est très belle et je vais en citer le passage essentiel. La vocation est la chose la plus grave du monde. Vous pensez donc que j'y ai regardé à deux fois. Comment se préparent les vocations? Par les inspirations, les pressentiments. Voilà plus de 15 ans que j'ai le pressentiment de ma vocation à l'état religieux. Mes parents le savent. Voilà près de 5 ans que j'ai l'inspiration persévérante d'entrer dans l'ordre des Capucins. J'ai mis toute ma vie, ma vocation au creuset de la prière, de grand nombre de bonnes œuvres à cette intention. Des saintes âmes ont prié et fait le bien dans ce but pour moi. Et je me rends le consolant témoignage que toute ma vie, j'ai su moins désirer d'être dans une indifférence, un abandon complet à la volonté de Dieu, prêt à tout quand il aurait parlé. Être à la volonté de Dieu. Comment se décident les vocations? En disant à Dieu qu'on s'en tiendra à sa décision et par conséquent que c'est à lui d'éclairer le confesseur à qui l'on s'est confié puisqu'on est décidé à prendre les paroles de ce conseiller comme paroles divines. Par ce confesseur, Dieu me dit « il faut aller là le moment venu ». Et quand la vocation est décidée, il faut s'attendre au sacrifice de la nature. Autrement, il n'y aurait aucun mérite et on pourrait craindre pour la vocation. Quant au sacrifice qu'ont fait mes parents, il coûterait beaucoup plus à mon cœur si je ne connaissais pas leurs vertus et si je ne savais pas qu'ils en seront récompensés au centuple, même en ce monde. Je ne connais sur la terre que deux choses, la prière et l'obéissance. J'ai prié et j'ai obéi. Je suis tranquille. Pendant le noviciat, je prierai, j'obéirai. Quoi qu'il en résulte, je serai tranquille. Vous avez eu la bonté de me communiquer les sentiments de mes parents et la charité de leur communiquer ma réponse. C'est au pied du Seigneur que je viens de l'écrire.
Alors là, c'est vraiment un extrait, et merci infiniment Jacqueline Bailey, du Père Marie-Antoine. C'est magnifique, c'est un trésor. Oui. Hein. Oui. Il rappelle aussi l'importance de la prière et de cette obéissance, où il dit « j'ai prié, j'ai obéi, je suis tranquille ». Alors, c'est un peu d'obéissance sur le temps qui nous est compté, Madame Jacqueline Bailey. Je vous propose de vous retrouver ici même pour la suite de cette série un peu spéciale en cette période spéciale de Noël, puisque nous avons quelques rendez-vous avec vous, et surtout ces rendez-vous sont donnés avec ce beau prédicateur, ce bel apôtre. Hein. On le redit, un apôtre de feu, mais toujours dans la volonté du Seigneur. Donc rendez-vous demain ici même, et merci.
Merci à vous, Nathalie.